Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakis avec vous, Michel Claire-Joseph assure la réalisation et la production. Ce soir, nous vous amenons au cœur de la ville sainte de Touba, un lieu sacré qui incarne l'âme du mouridisme, une confrérie soufie fondée par Cheikh Amadou Bamba au Sénégal. Au fil des décennies, la doctrine mouride a connu des évolutions importantes, tant dans ses pratiques que dans son enseignement spirituel. Mais comment ces changements ont-ils façonné la perception des mourides eux-mêmes et celle de la communauté musulmane au sens large? Ont-ils renforcé ou altéré la place centrale de Touba dans l'univers spirituel? À travers cette émission, nous explorons ces transformations pour mieux comprendre l'essence du mouridisme moderne. Nous aurons le plaisir d'accueillir un historien sénégalais, également spécialiste des religions, pour nous éclairer sur ces questions cruciales. Le professeur Mohamed Mbodj est avec nous. Il enseigne à Manhattanville University à New York. Professeur Mbodj, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue encore une fois dans le dialogue des religions et merci pour vous, votre contribution dans cette émission.
Je vous en prie.
Mohamed Mbodj, pouvez-vous nous rappeler les fondements de la doctrine mouride telle qu'enseignée par Cheikh Amadou Bamba?
Alors, la doctrine mouride est une doctrine soufie. Les soufis se sont développés dès le plus jeune âge de la religion musulmane et derrière, on les retrouve ou des équivalents dans d'autres religions. C'est l'idée que pratiquer ce qui est obligatoire et à la lettre ne suffit pas et que le fidèle doit pouvoir y ajouter quelque chose qui le rapproche de Dieu. Alors ce qui le rapproche de Dieu, ça peut être des prières supplémentaires, ça peut être une façon de réciter dans ce cas-ci le Coran. Il se peut que ce soit de rédiger des poèmes, des chansons ou en tout cas des ordres à la gloire de Dieu et de son prophète Mohammed. Donc toutes sortes de choses qui, en dehors de ce qu'on peut appeler l'orthodoxie stricte et à la lettre de la religion, vous permet d'y ajouter une dimension spirituelle et contemplative qui organise l'âme et fait en sorte que donc on se rapproche de Dieu tout en se libérant de beaucoup de ce qu'on peut appeler le poids du vécu quotidien, l'objectif quotidien de survie. Le soufisme essaie de penser sur le long terme le destin du fidèle par rapport à Dieu et de faire en sorte que sa trajectoire, la trajectoire du fidèle, atteigne le plus proche possible ce qu'on peut appeler la perfection. Et dans le Sénégal de la fin du 19e et du début du 20e siècle, une société en crise où les structures traditionnelles ont été détruites et vaincues par la France principalement, il y a un vide spirituel, il y a un vide affectif, il y a un vide social et organisationnel, et le mouridisme va être l'une de ces confréries qui va venir et aider à combler ce vide, cette lacune, et en même temps à substituer certaines relations sociales devenues obsolètes en y mettant l'accent sur un rapprochement avec Dieu, un détachement des biens matériels, un détachement des ambitions politiques, disons, immédiates et autres, et faire en sorte que le fidèle se rapproche de Dieu le plus souvent possible et le plus longtemps possible. La deuxième chose que le soufi cherche, c'est de se détacher de ce qu'on va appeler le monde corrompu. Un monde où l'argent, où l'action, où l'envie, la jalousie dominent. Et donc, et en particulier, tout est organisé autour de gains matériels. Le soufi va essayer de s'en écarter, car c'est, donc, d'une certaine façon, il y a une sorte de retrait d'un monde coupe-gorge, où le résultat prime sur les torts et tous les moyens sont bons pour arriver à leur fin. Donc le souffle, c'est plutôt de faire en sorte que les moyens soient correspondent à la finalité et faire en sorte que ce que l'on recherche vous arrive, mais sans accaparer l'ombre, sans tirer la couverture à soi d'une manière générale. Donc il y a une sorte de vœu de modestie, il y a une sorte de vœu de partage et de communion avec les autres qui est dans la voie qu'on retrouve dans l'idéologie soufie. La troisième chose, évidemment, c'est le salut par les actes. La foi, la spiritualité cimente ça, il faut solidifier ça. Les actes se trouvent à deux niveaux. Il y a les actes, disons, obligatoires, recommandés et fixés, qui ne peuvent pas changer, disons, et qui font que quelqu'un, techniquement, soit qualifié de non, que c'est hier, le jeûne du ramadan, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont au départ requises, mais l'un, pour s'assurer de son salut, doit quelque chose à cela. D'une part, pour remercier Allah de lui permettre de vivre sur terre pendant un moment, de lui demander de le guider. Le soufi va y ajouter, demandeur, va y ajouter une célébration de Dieu, pas seulement celle qui est contre les cinq commandements majeurs de l'islam. C'est dans ce cadre-là qu'il a besoin d'un guide, un guide qui peut effectivement créer, façonner des voies qui permettent d'atteindre un peu plus le salut, un peu plus proche de Dieu et de son prophète. Le guide spirituel, c'est le cheikh, fondateur de la confrérie et ses successeurs par la suite, mais aussi des membres de la confrérie à qui lui-même décerne le titre de cheikh, c'est-à-dire qu'ils sont capables de mener à bien et des dirigeants de cellules, plus ou moins importantes d'ailleurs en nombre, c'est pas le plus important, mais c'est aussi, ça permet d'organiser la confrérie là où le père spirituel n'est pas présent, ou bien lorsque le père spirituel n'est plus sur terre. Donc ce sont ces trois choses qu'on retrouve dans le mouridisme, évidemment incarné par la tonalité, la trajectoire et les ancêtres Ahmadou Bamba Mbake.
Quelles ont été les évolutions doctrinales au sein du mouridisme depuis jusqu'à aujourd'hui?
Beaucoup de gens, souvent, parce que Cheikh Ahmadou Bamba dit qu'il a cherché et qu'il a pratiqué plusieurs formes, et dont certainement le plus visible dans l'histoire et éthique de la Khadria. La Khadria est une confrérie soufie venue de Bagdad, Abdelkhadr Jailani, donc une confrérie vieille de peut-être 1000 ans, c'est l'une des plus vieilles confréries soufies dans l'islam. Et durant une vie, Cheikh Ahmadou Bamba a pratiqué le soufisme de cette confrérie, a voyagé, il a semé auprès de qui pratiquait une autre forme de soufisme très dans le monde sénégambien, la Tidjania, et d'une manière générale d'ailleurs l'Africain. Et c'est finalement sur la base, et après ces différents idées, de lancer la Mouridia. La Mouridia différencie par rapport à Tidjania une liturgie beaucoup plus simplifiée. C'est différencié par l'ancrage dans ce qu'on peut appeler le pèlerinage co, la référence à des saints locaux et la copie, lorsque c'est possible, de la vie du saint Cheikh Ahmadou Bamba et non pas de la vie d'un autre saint qui a vécu à d'autres moments dans un autre cadre. C'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de gens pensent que l'africanisation du soufi, étant donné que l'Idiya, toutes ces références, sont finalement ce qu'on peut appeler des chers, c'est le pluriel en arabe, qui sont plutôt noirs, qui parlent la langue des gens et qui ont l'analyse, bien entendu, de la religion et de la langue arabe, mais qui souvent conversent avec les fidèles dans la langue locale, dans une langue locale, de façon à ce que l'expression soit mieux comprise des fidèles qui, dans la très grosse majorité, bien entendu, au début du mouridisme, ne maîtrisent certainement pas le Coran à fortiori pratique de la langue arabe.
Quelle compréhension que le mouridisme a pu susciter au sein de la communauté musulmane plus large en raison de ces changements?
Il y a une forte critique autour de la personnalité du chef et de la ferveur populaire que les mourides manifestent à du chef, de musulmans, une vision critique en disant au fond, il y a une sorte de révérence à un homme, à un mortel, en quelque sorte, et que ça distrait de la révérence qui ne doit être accordée qu'à Dieu. Donc il y a cette critique que la centralité du chef crée une sorte d'ombre, une sorte leadership du chef est transformé en une sorte d'entrepôt, d'un système où un homme est au centre. La deuxième critique, et c'était souvent une critique du début, beaucoup des rangs initiaux du DIA, il y avait une crainte de ce qu'on peut appeler les soldats vaincus par la colonisation qui se sujet dans la religion et qui, à l'âge adulte, plus ou moins, disons, de reconversion spirituelle, entendu. Le Coran, la page scrupuleuse depuis tendre enfance. Donc, une sorte d'attirance pour dire que la culture entre guillemets musulmane n'était pas très forte, n'était pas ancrée. C'est une critique, surtout au début du mouridisme, qu'on voyait souvent, quelquefois, les colonisateurs français eux-mêmes se permettaient de faire ce genre de critiques et même aller jusqu'à parler d'un fanatisme guerrier reconverti en une sorte de fanatisme spirituel. Dans là, les mourides, des néophytes qui ne comprenaient pas grand-chose à la nouvelle religion qu'ils embrassaient. Le troisième volet de cette critique, c'est évidemment lorsque Cheikh Amadou Bamba préconise que le talibé, donc l'adhérent, le mouride de base, doit chercher son indépendance matérielle de façon à pouvoir être à l'abri de ses obligations vis-à-vis de l'État, donc de rendre à César ce qui revient à César, y compris payer ses taxes, etc., 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 et faire donc en sorte que, lorsqu'il finisse son travail, qu'il puisse se consacrer à la prière, qu'il puisse se consacrer à ce qu'on peut appeler l'ésotérisme musulman. Donc, cette approche pour certains puristes de l'islam, qui tend à privilégier ou en tout cas à mettre en exergue le travail, et en particulier le rendement économique du travail qu'on utilise à des fins spirituelles, pour certains, c'est donc le mouridisme devient une sorte de travaillisme, une sorte d'idéologie où l'accumulation des biens devient trop importante, et même certains vont jusqu'à dire que même crée une distorsion dans la pratique, parce que certains ne pratiquent l'islam que lorsqu'ils ont fini de travailler, puisque le travail souvent ne finit jamais. Donc on peut voir là qu'il y a peut-être des critiques à ce niveau lorsque le mouride se consacre si intensément au travail. Et la dernière critique, c'est la centralité du cheikh, de sa famille et de ses lieutenants, et qui finalement, dans le rapport avec les fidèles, on a une sorte de rapport d'absolutisme spirituel. Le fidèle suit à la lettre les recommandations du chef, que ce soit le calife général ou que ce soit un calife particulier ou simplement un chef détaché pour diriger un groupe. Il y a une sorte de discipline, un peu militaire d'ailleurs, où on fait ce qu'on vous dit de faire et on ne cherche pas à comprendre pourquoi, etc., etc., etc. Donc, pour certains, c'est une critique qui vise à dire que les fidèles mourides ne réfléchissent pas sur ce qu'ils font, ils suivent à la lettre les recommandations et les directives et les ordres de personnes qui peut-être les exploitent financièrement, les exploitent socialement, etc., etc. Mais comme j'ai dit, la plupart de ces reproches étaient très populaires, très ouvertes en particulier au début du mouridisme. Mais depuis, disons, les années 70 ou 80, ces reproches s'estompent. Tout d'abord, les mourides ont surmonté ce qu'on appelait le gap de connaissances ou de pratiques musulmanes orthodoxes dans l'apprentissage de la langue, dans l'apprentissage du Coran, la pratique quotidienne, etc., etc. Les mourides, dans leur pratique économique, ont réussi et finalement sont devenus peut-être un modèle. On parle même au Sénégal, on discute même ouvertement de la possibilité pour l'État sénégalais dans sa politique économique d'adopter la politique économique ou la philosophie économique des mourides. Et la relation entre le cheikh et le mouride, elle est très forte, mais cependant, on a vu lors des élections, depuis une vingtaine d'années et quelques, que les fidèles mourides votent comme ils veulent et ne suivent pas toujours au doigt et à l'œil ce que le calife aurait voulu, ou quelquefois il y a eu effectivement des directives pour aller dans tel ou tel sens, mais en fin de compte, ces directives de la hiérarchie mouride d'une certaine façon sur le plan politique ne sont pas toujours suivies par les électeurs, et donc ça démontre qu'en réalité il n'y a pas une sorte de suivisme aveugle, une obéissance aveugle du talibé mouride vis-à-vis de son chef spirituel. Il sait faire la part des choses.
Suivez le dialogue des religions, nous parlons de Touba, évolution doctrinale et transformation au sein du mouridisme. Notre invité, le professeur Mohamed Mbodj, historien et spécialiste des religions. Professeur Mbodj, peut-on dire que le mouridisme a su s'adapter aux défis du monde moderne sans trahir ses principes fondateurs? Si oui, comment?
Certainement, parce que d'abord, il y a une très forte influence de la diaspora, donc les émigrés mourides, qui contribuent grandement à la richesse et à l'efficacité du système, et dont les idées sont venues rejoindre les idées de ce qu'on peut appeler le leadership, en tout cas la direction centrale de la confrérie, pour établir des instruments modernes. Création d'universités, création d'hôpitaux de premier rang. Tous les services sont assurés, mais des hôpitaux construits avec l'argent de la communauté mouride. Des maisons d'édition, des cercles d'études qui ont commencé chez les étudiants des universités à Dakar et puis ailleurs. Presque dans tous les campus maintenant où il y a une forte présence des Sénégalais, on pourra trouver des cellules d'études, des aïras. Donc, les mourides s'organisent à l'intérieur même de ce qu'on peut appeler le plus moderne du plus moderne, et ici je parle de l'université. Ensuite, ils ont investi, et en particulier les entrepreneurs mourides, investissent dans tout ce qui rapporte de l'argent. Ça peut être le commerce de proximité, la restauration, comme ça peut être les cybercafés, comme ça peut être donc l'industrie électronique. Il n'y a pas de domaine où les entrepreneurs mourides ou les financiers mourides s'interdisent de participer et d'investir. Et donc, on suit ce qui marche, on suit ce qui se vend bien, on apprend les dernières techniques, on se met à jour par rapport aux connaissances scientifiques. Et de ce point de vue-là, on peut très bien dire que le mouride s'est très bien adapté au monde moderne, au contexte moderne. Et en particulier en étant souvent capable de faire une analyse qui tient en compte ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe aussi dans les pays d'accueil de ces milliers d'émigrés talibés mourides, la communauté est capable d'avoir, disons, plusieurs flèches à son arc pour pouvoir trouver la solution idoine lorsque les problèmes se posent. Et ne pas seulement se contenter de solutions faites maison à l'intérieur même de la maison du calife et de ses dépendants, etc. Alors, toutes les idéologies sont confrontées à des crises. Ces crises peuvent les fragiliser, mais quelquefois aussi, au sortir de ces crises, ces idéologies peuvent être réconfortées, peuvent être renforcées. Et je ne pense pas que le mouridisme, comme d'autres groupes soufis, puisse échapper à ça. Il y a un dynamisme de l'âge qui fait que le mouridisme a un avantage extraordinaire. C'est que c'est une confrérie qui recrute beaucoup parmi les jeunes. Et c'est très fréquent, ou en tout cas c'est très standard, disons ordinaire, de trouver des jeunes élevés dans d'autres structures, dans d'autres confréries soufis, rejoindre le mouridisme. Alors que le mouvement opposé, c'est-à-dire des jeunes élevés dans le mouridisme et qui quittent le mouridisme pour aller ailleurs, est beaucoup moins fréquent. Donc le mouridisme a du sang frais, a du sang neuf, a du sang jeune, et je pense que cela permettra effectivement de rajeunir les cadres. Ça permet de rajeunir évidemment la façon de fonctionner, parce que la manière dont les jeunes fonctionnent, même s'ils suivent, disons, de façon formelle ce que les aînés disent, et dans la pratique quotidienne même de cette obéissance à ce que les anciens ont dit, en fait, ils introduisent leur façon de le faire, ils introduisent des nouveautés pour l'efficacité, ils introduisent des instruments nouveaux que les anciens ne maîtrisent pas, et en fin de compte, c'est cette sorte de... la technique moderne, la technologie, la pensée moderne, les techniques financières, les techniques scientifiques, etc., entrent dans le mouridisme par le biais de ces jeunes éduqués, qui sont de fervents mourides et qui pensent qu'il n'y a aucune contradiction entre leur confrérie soufie et leur métier ou leur apprentissage ou même leur philosophie économique ou sociale ou scientifique. Donc, je pense que c'est ce qui fait que le mouridisme est bien adapté pour le futur. Et donc, c'est aussi une confrérie qui a une assise financière très importante et qui donc peut investir dans le futur, que ce soit dans les technologies du futur, dans les entreprises du futur, et qui en tout cas peut s'autonomiser par rapport aux caisses de l'État. Et même par rapport à des investissements privés extérieurs, la communauté mouride peut être suffisamment forte pour éviter de tomber donc, dans le giron de l'État ou d'investir ou d'investisseurs qui ne sont pas membres du mouridisme.
L'histoire du mouridisme ancré à Touba est celle d'une tradition en mouvement qui parvient à allier fidélité à ses principes fondateurs et adaptation aux défis contemporains. Les changements doctrinaux et pratiques observés au fil des décennies témoignent d'une dynamique vivante, toujours en quête de renforcer le lien entre le spirituel et le temporel. Le mouridisme, à travers ses évolutions, continue de jouer un rôle central dans la spiritualité et la culture du Sénégal. Et il nous reste à voir comment cette tradition pourra influencer les générations futures. Merci au professeur Mohamed Mbodj pour sa grande contribution dans la compréhension du mouridisme et de cette ville de Touba au Sénégal qui est devenue un lieu de pèlerinage. Merci beaucoup, professeur Mbodj.
Je vous en prie, c'était mon plaisir.
Eric Manirakiza était avec vous au micro. Michel Pierre-Joseph a assuré la production et la réalisation. Merci également à tous les auditeurs qui nous suivent. Je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine.